Vous écoutez, on lit pour vous.
Pendant que nous interdisons, d'autres pays forment. Un texte de Mélissa Cancelier, paru le 9 mai 2025 dans la presse. Le gouvernement québécois a annoncé l'interdiction des téléphones cellulaires dans les écoles primaires et secondaires dès septembre. L'objectif est clair. Limiter les distractions, les situations d'intimidation et les effets délétères des écrans. Cette décision part d'une très bonne intention. Mais empêcher l'exposition ne protège pas durablement les adolescents. Il faut aussi préparer les cerveaux. Et cela passe par une éducation numérique ambitieuse et cohérente avec les défis d'aujourd'hui. Le cerveau adolescent, cible idéale des algorithmes. L'adolescence est une période de grande plasticité cérébrale. Le cortex préfrontal, qui régule l'attention, le raisonnement et le contrôle des impulsions, est encore en développement. C'est aussi l'âge où le besoin d'appartenance, de reconnaissance sociale et de stimulation émotionnelle est maximal. Les réseaux sociaux exploitent précisément ces fragilités. Contenu superstimulant, notifications répétées, récompenses sociales immédiates. Les plateformes ne s'adaptent pas à la vulnérabilité des jeunes. Elles l'exploitent. Interdire les téléphones en classe évite la distraction pendant quelques heures. Mais à l'extérieur, l'exposition reprend sans filtre. Il ne suffit pas de confisquer un outil pour le rendre inoffensif. Il faut former à résister à ce qu'il déclenche dans le cerveau. Renforcer l'esprit critique et l'empathie. La meilleure défense contre la manipulation numérique, c'est la compréhension de ses mécanismes. En apprenant comment les biais cognitifs, les émotions et les réflexes attentionnels sont exploités, les jeunes peuvent développer une autonomie éclairée. Ce n'est pas seulement un moyen de se protéger. C'est un levier pour grandir, coopérer et mieux vivre ensemble. Comprendre son propre fonctionnement cérébral. C'est aussi apprendre à décoder les autres, à se tolérer et à désamorcer les conflits. En Finlande, le programme Kiva a misé sur cette approche éducative pour lutter contre le harcèlement. Au-delà de la diminution des cas de harcèlement, le programme a également entraîné une amélioration de la motivation et des résultats scolaires des élèves, ainsi qu'une augmentation de leur satisfaction à l'égard de l'école. Pas par interdiction, mais par développement des compétences sociales et numériques. Les études le confirment aussi. Mieux on est formé à repérer les pièges de la désinformation, moins on y adhère. L'éducation aux médias renforce l'esprit critique et la résilience cognitive. C'est une réponse concrète à l'un des plus grands risques identifiés pour le Canada, la perte du discernement entre le vrai et le faux. Ne pas former les jeunes, c'est laisser les algorithmes les éduquer. Pendant que nous interdisons, d'autres pays forment. La Chine a introduit l'enseignement de l'intelligence artificielle dès l'âge de 6 ans. Aux États-Unis, des programmes scolaires intègrent déjà la pensée algorithmique aux primaires. Souhaitons-nous que les jeunes Québécois découvrent seuls les lois du numérique par l'intermédiaire de TikTok, Instagram ou YouTube Shorts? Ou souhaitons-nous leur offrir une grille de lecture ancrée dans nos valeurs. Esprit critique, démocratie, transparence. Ce n'est pas une course technologique à imiter, mais un cap éducatif à choisir. Si nous n'enseignons pas à nos jeunes comment fonctionne le numérique, ils apprendront ailleurs, selon des règles et des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Interdire apaise, mais seul le savoir libère. L'interdiction des cellulaires à l'école est un signal utile, mais seule, elle donne l'illusion d'une protection. Si nous voulons vraiment armer les jeunes contre l'intimidation, les excès numériques et la désinformation, nous devons former leur cerveau à comprendre, résister et choisir. La littératie numérique, combinée à une éducation émotionnelle et sociale, n'est plus un luxe pédagogique. C'est le socle urgent d'une citoyenneté lucide dans un monde connecté. Parce qu'interdire les écrans protège un moment, mais éduquer prépare une vie entière. C'était « Pendant que nous interdisons d'autres pays forment », un texte de Mélissa Cancelier, paru le 9 mai 2025 dans La Presse.
Espace plus village, vers un renouveau total de l'édifice. Un texte d'André-Constantin Pachour, paru le 23 mai 2025 dans le magazine Fugue. Si l'on passe devant le futur espace plus village, à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Timothée, on pourrait croire que l'édifice va s'effondrer. Rassurez-vous, tout a été pris en compte pour revitaliser cette bâtisse de 3 étages. Y compris le sous-sol, qui abritait récemment, entre autres, les magasins de chaussures Yellow et de vêtements Bedeau. C'est la firme d'architecte Rayside Labossière qui a conçu les plans de rénovation pour mettre à jour la structure et la moderniser. Entre 10 et 15 groupes communautaires LGBTQ+, seront hébergés en permanence dans le nouvel espace, sur les 60 organisations qui sont officiellement membres d'espaces LGBTQ+, à l'heure actuelle, dont la plupart prévoient utiliser les lieux de manière ponctuelle. Mais où en sont les travaux de réfection et le financement qui permettront l'essor d'Espace Plus Village? Dès le départ, je rassure tout le monde. Non, la bâtisse ne tombera pas, s'exclame presque Marie-Michelle Monsen, directrice générale de l'organisme. Elle va redevenir belle, elle sera complètement rénovée avec plusieurs locaux. Nous visons encore une ouverture pour 2027. Nous attendons en ce moment le résultat de plusieurs démarches entreprises auprès du gouvernement fédéral avec le Fonds des bâtiments verts et inclusifs. Il nous reste certains détails à régler, mais l'obtention de cette subvention déclenchera, en fait, les autres démarches. Le gouvernement provincial attendait que son vis-à-vis fédéral embarque. « Nous sommes présentement en négociation avec le gouvernement québécois », poursuit-elle. Est-ce une promesse? Dans notre entrevue avec le conseiller municipal du district de Saint-Jacques, Robert Baudry, également membre du comité exécutif de la ville, celui-ci affirmait que l'édifice d'Espace Plus Village avait besoin de beaucoup d'amour. Ici, c'est presque un euphémisme, compte tenu de l'état du bâtiment. Oui, la ville nous avait appuyés pour l'achat de la bâtisse, mais nous allons refaire une demande et nous espérons que la ville collaborera encore pour nous aider avec les travaux, car il y en a vraiment beaucoup, renchérit la directrice générale d'Espace Plus Village. L'équipe prévoit présenter les plans finaux à l'été 2025. Ensuite, l'appel d'offres devrait suivre cet automne et les travaux devraient commencer en 2026, ajoute Marie-Michelle Monsen. Les membres d'Espace LGBTQ+, ont été consultés à plusieurs reprises afin d'identifier les besoins des groupes qui logeront dans les locaux. Pour donner une idée de ces membres, on parle ici de groupes comme Aide aux Trans du Québec, l'Association citoyenne du village de Montréal, ACVMTL, le Centre de solidarité lesbienne, la Fondation Émergence, le Gris Montréal, Massimadi, le Conseil québécois LGBT, Jeunes identités créatives ou encore Pleurer dans douche, un groupe théâtral. Un peu d'histoire. Le 929 rue Sainte-Catherine-Est, à l'angle de Saint-Timothée, est l'adresse actuelle de l'édifice, qui, comme on s'en doute, a changé au fil des décennies. Ce que l'on sait, c'est que la bâtisse actuelle date de 1903. De 1878 à 1909, l'entreprise Desjardins et Compagnie, fondée par Charles Desjardins, y tenait un commerce de fourrures sur plusieurs lots près de la rue Saint-Timothée. L'entreprise connaît un tel succès que, dès 1903, Desjardins fait construire un nouvel édifice de 5 étages, dont un sous-sol, destiné à l'entreposage, à la fabrication et à la vente. Plus de 200 personnes y travaillent. En 1909, devant la demande croissante, il déménage sur la rue Saint-Denis vers un espace plus vaste. Le bâtiment a ensuite été occupé par divers commerces. Un premier incendie a eu lieu en 1916, puis un second en 1929, alors que l'édifice était occupé par un magasin Woolworth. Dans les années 1970, c'est Jeans Junction, une boutique de jeans, qui s'y installe. De ce qu'on sait, il y a eu 2 incendies, ce qui a modifié la bâtisse, et les étages supérieurs n'ont jamais été reconstruits après ces feux successifs. Donc, refaire le 3e étage, c'est revaloriser le patrimoine de ce bâtiment, explique Marie-Michel Monsen. Dans cet édifice entièrement restauré, on prévoit également y ajouter une salle événementielle sur le toit. Elle servira à des activités de réseautage, de lancement, de rencontres de groupes communautaires, etc., précise-t-elle. Une vidéo militante. Sur le site web de l'organisme, on peut visionner une courte vidéo soulignant l'importance de l'ouverture de ce complexe communautaire, dans laquelle plusieurs actrices et acteurs du milieu prennent la parole, notamment Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour la diversité. Un village qui se refait, qui se revoit, un espace où les gens se retrouvent. Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du village. Un projet novateur, structurant et tellement important pour les communautés, ici, à Montréal, mais aussi au Québec. Ron Rayside, architecte. Les locaux deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers. L'idée est de contrer ce mouvement-là en ramenant ces organisations et en leur fournissant des locaux abordables, créant une synergie entre elles dans l'ensemble de l'espace. Victoria Legault, directrice générale d'Aide aux trans du Québec. Pour moi, Espace plus Village évoque l'espoir. En ces temps difficiles, je crois que la concrétisation de ce projet pionnier envoie un message fort à chaque personne LGBTQ+ au Québec. Le mot de la fin revient à la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, Québec solidaire. En 2027, ça fera 50 ans que l'interdiction de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle a été inscrite dans la Charte des droits de la personne du Québec. Mon souhait est que le 1er ou le 2 janvier, tu m'invites à couper le ruban du premier complexe LGBTQ+ en Amérique du Nord et un complexe francophone. C'était Espace plus Village, vers un renouveau total de l'édifice. Un texte d'André-Constantin Patiour, paru le 23 mai 2025 dans le magazine Fugue.
Nos enfants vont-ils survivre à la crise climatique? Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 21 avril 2025 dans Urbania. Chaque année, l'ONG, Global Footprint Network, profite de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, pour annoncer le jour du dépassement de la Terre, dont la date varie d'année en année et correspond au moment où l'humanité a consommé l'équivalent d'une année entière de ressources renouvelables. L'annonce de ce jour fatidique angoisse toujours Marc-André Pelletier, père de 2 garçons de 10 et 12 ans. le trifluvien, s'inquiète aussi des visées territoriales de l'administration américaine qui souhaite envahir le Canada et le Groenland pour leurs ressources et leur positionnement stratégique dans l'Arctique. Je me questionne, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce monde? Comment vont-ils grandir là-dedans? Quelles ressources allons-nous leur léguer? Feront-ils même les frais de bataille à venir pour ces ressources? Ils grandissent avec une espèce de peur ambiante dans les prochaines années. Ça les rend anxieux, et moi aussi, témoigne-t-il. Je ne regrette pas d'avoir eu des enfants, au contraire. Mais quand on devient parent, on se dit toujours qu'on va leur laisser un monde meilleur, poursuit le père de famille. Je me demande si ce sera le cas. L'intolérance grimpe, l'économie est fragile, les écrans qui ont un impact majeur sur leurs interactions. J'essaie de les protéger, de ne pas trop les exposer, mais en même temps, je ne veux pas leur mentir. Une centaine de kilomètres plus loin, Jessica Dufour est confrontée au même dilemme. Je suis très préoccupée de quitter ce monde un jour et de savoir que mes enfants et mes futurs petits-enfants potentiels vivront dans un monde où il n'y aura pas assez d'eau potable, illustre-t-elle. Ça entraînera des conflits importants pour cette ressource, et notre pays n'a clairement pas suffisamment d'effectifs militaires pour protéger ses frontières, ni sa population, ni ses ressources. Double culpabilité. Justin Sirois-Marcil est travailleur social. Une grande partie de sa clientèle est constituée de personnes éco-anxieuses, dont des parents. Il constate chez ces personnes une forme de double culpabilité, un discours qu'il entend aussi chez des individus qui, notamment pour des raisons environnementales, hésitent ou refusent de devenir parents. Certains se demandent quel monde ils laissent à leurs enfants, mais d'autres se demandent aussi quels enfants on laisse à notre planète, illustre Justin Sirois-Marcil. Certains se sentent coupables à l'idée d'ajouter un humain sur une planète où il manque déjà de ressources. Mais en même temps, ceux qui ont des enfants s'en veulent de leur faire subir l'avenir sombre qu'ils craignent pour eux. Le travailleur social souligne aussi que l'éco-anxiété ne se rapporte pas qu'à l'environnement. En grec, « éco » veut dire « maison », rappelle-t-il. Donc, le phénomène englobe toutes les inquiétudes par rapport au fait que notre maison ne pourra peut-être pas assurer notre sécurité. Que cette maison soit la planète, notre ville, la nature ou notre civilisation. Les tensions politiques actuelles entrent aussi dans cette discussion. Dans sa pratique, M. Sirois-Marcil remarque que les parents tentent d'inculquer des valeurs écologiques à leurs enfants. Ils renoncent aussi à certaines choses pour assurer la cohérence de ce message, comme voyager en avion ou avoir une deuxième voiture. Certains se disent que leurs enfants seront malheureux parce que le monde ne sera pas le même que celui qu'ils ont connu. Mais le bonheur ne dépend pas seulement de l'état du monde tel qu'il est présentement. Nuance Justin Sirois-Marcil. Il suffit de regarder d'autres cultures dans le monde où les gens sont heureux même en ne vivant pas dans l'abondance. Alors, peut-être que la solution, c'est d'apprendre à nos enfants à être heureux et être capables de s'adapter à différentes conditions. Que faire pour se rassurer? Bien que certaines personnes éco-anxieuses puissent se sentir impuissantes face à la situation, Elles peuvent poser des gestes pour amoindrir leurs inquiétudes, ou, à tout le moins, pour se sentir mieux, soulève Justin, Sirois Marcille. J'encourage les parents à poser des actions avec leurs enfants qui vont dans le sens de prendre soin du vivant et des personnes afin de développer chez eux, très jeunes, un attachement pour la vie et les humains, suggère-t-il. Ça peut être à travers des activités en famille, comme jardiner, l'action communautaire, ou avec des organismes non gouvernementaux tels que Mères au front. En développant très jeune une forme d'appartenance pour autre chose que l'artificiel, il y a plus de chances que plus tard, ces enfants soient motivés par la préservation de la vie et non des profits. C'est ce que Jessica s'efforce de faire. Ma façon de contrer tout ça, c'est l'éducation, dit-elle. J'explique à mes enfants qu'il existe des tensions politiques et je leur apprends le pouvoir de la négociation, l'autosuffisance et les bonnes habitudes de vie. Je les encourage fortement à prendre soin de leur environnement, même si les autres enfants autour d'eux s'en fichent. Peut-être qu'un jour, mes enfants auront un peu d'influence sur eux. C'était « Nos enfants vont-ils survivre à la crise climatique ?» Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 21 avril 2025 dans Urbania.
Les politiques environnementales du Canada bénéficient aussi au portefeuille de la santé. Un texte d'Alexis Riopel paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. Les politiques environnementales du Canada ne protègent pas que la nature. Elles ont aussi des bénéfices sur la santé. Selon un nouveau rapport, les avantages que ces règlements procureront à la société contre les maladies cardiovasculaires et respiratoires vaudront des milliards de dollars d'ici 2050. Le document publié par l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, ACME, se concentre sur les règlements fédéraux sur l'élimination progressive du charbon en vigueur depuis 2012, sur l'électricité propre, 2024, sur les composés organiques volatiles, 2025, et sur la réduction des rejets de méthane, 2018. D'ici 2050, ces quatre règlements permettront de réaliser des économies en matière de santé d'au moins 18 milliards de dollars, selon l'ACME, qui s'appuie sur les analyses coûts-bénéfices réalisées par Ottawa pour chacun des règlements. Ces analyses intègrent les coûts associés aux soins médicaux, à la perte de productivité et à l'accroissement de la mortalité. L'originalité du rapport tient à ce qu'il rassemble les évaluations déjà existantes, explique Rob Barnes, l'un des auteurs de ce document qui se concentre sur les polluants respiratoires. C'est important de savoir qu'il y a des liens forts entre l'environnement, la santé publique et l'économie, fait-il valoir en entrevue. Selon l'analyse de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, le règlement sur l'élimination du charbon évitera 900 décès prématurés, 800 hospitalisations et 120 000 épisodes d'asthme entre 2015 et 2035. L'ACME associe à ce règlement des économies en santé de 11 milliards de dollars, ce qui dépasse l'évaluation fédérale. En cause, l'Association de médecins a choisi d'éliminer le taux d'actualisation de 3 % considéré par le fédéral. Dans une évaluation coût-bénéfice, un taux d'actualisation sert à exprimer la préférence pour les avantages immédiats par rapport à ceux incertain, censé survenir plus tard. Des écologistes, critique toutefois cette approche, déplorant qu'elle amenuise l'importance accordée aux générations futures. Une analyse conservatrice. Les quatre règlements sélectionnés par l'ACME réduisent les émissions de nombreux polluants ayant des effets sur la santé humaine, dont les oxydes de soufre, SOX, les oxydes d'azote, NOX, le mercure, les particules fines, l'ozone, O3, et les composés organiques volatiles. Des centaines de milliers de tonnes d'émissions sont éliminées annuellement. Bien évidemment, fermer des centrales électriques alimentées aux énergies fossiles réduit aussi les émissions de CO2, ce qui atténue les changements climatiques. En découle des avantages pour la santé, les coups de chaleur se raréfient, les maladies infectieuses ne progressent pas aussi vite, etc. Plus difficile à quantifier, ces bénéfices sanitaires ne sont toutefois pas inclus, sauf exception, dans les analyses fédérales, ni, en conséquence, dans le rapport de l'ACME. Ils n'en sont pas moins bien réels. Notre analyse est très conservatrice, précise M. Barnes. Après celui sur le charbon, le règlement sur l'électricité propre est celui qui procure les plus grands bénéfices en santé, de 6 à 9 milliards de dollars entre 2024 et 2050, selon l'ACME. L'incertitude dépend du recours au captage du CO2 qui pourrait réduire les émissions de GES des centrales au gaz naturel sans pour autant éliminer les autres polluants qu'elles génèrent. Notons que les quatre règlements analysés réduisent surtout la pollution de l'air dans les provinces dotées de centrales au charbon et de puits pétrogaziers, ce qui exclut le Québec. La belle province pourrait néanmoins bénéficier des progrès faits ailleurs au Canada, puisque les polluants peuvent voyager sur de grandes distances, comme en témoigne la fumée des feux de forêt. Avant la campagne électorale, deux importants projets de règlements environnementaux étaient à l'étude. Celui sur le plafonnement des émissions de GES du secteur pétrolier et gazier, que Pierre Poilievre promet d'abolir et Mark Carney de concrétiser, et celui sur le renforcement de la réglementation sur les émissions de méthane. Tous deux pourraient avoir des incidences importantes sur la santé publique, affirme M. Barnes. C'était « Les politiques environnementales du Canada bénéficient aussi au portefeuille de la santé », un texte d'Alexis Riopel paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir.